cette ecclésie rondelle sont folles.
Elles sont folles.
Bonjour à tous, chers auditeurs, il est 11h à la pendule de Radio Canu et comme tous les dimanches de 11 à 12, l'émission musique, etc. débute avec aujourd'hui comme invité dans les studios Tatiana Alamartine. Bonjour Tatiana Alamartine, qui vient nous présenter en fait un album de piano solo intitulé Churching.
Tout à fait.
Et ça signifie, je crois, recherche en anglais.
Oui.
Tu vois. Donc voilà, ouais, il faut quand même noter donc c'est la, que tu es ma première invitée dans le domaine de la musique classique, donc il faudrait être gentil avec moi. D'accord.
Oui, pas de souci.
Et puis donc on va découvrir cet album tout au long de l'émission. Je vous remets un bout de générique et donc on découvre le disque. A tout de suite. Oui, donc musique, etc. débute, comme je disais il y a un instant, donc avec la pianiste Tatiana Alamartine, donc qui vient donc nous présenter un disque qui est sorti tout récemment, je crois.
De novembre dernier. Mmh.
Donc c'est un disque, on peut dire, de piano solo.
Oui, oui, tout à fait.
Donc qui s'intitule Churching. Et donc c'est sorti sur un label qui s'appelle
Voxov Record.
Et en fait, je crois que c'est le. Enfin, c'est un, non, peut-être. Mais en fait, c'est un projet un peu particulier parce que oui. Je crois que c'est le premier. Projet acoustique du label, c'est ça?
Oui, c'est ça. Le label s'est tourné vers. Enfin, pour promouvoir des artistes acoustiques, alors qu'avant, c'était beaucoup plus. C'est des musiques. Pas électro, mais avec des machines. Mmh. Il y a beaucoup des samples, des nappes sonores. Et là, c'est vraiment piano acoustique, enfin instrument acoustique. Donc, la piano, ils vont ensuite sortir d'autres artistes. Je crois qu'il y a du violoncelle qui arrive juste derrière. Et je ne sais pas encore les autres, mais c'est une nouvelle lignée. Donc, nouveau design pour les pochettes. Nouveau nom acoustique pour ça, voilà.
Oui, à l'origine c'est pas un label qui fait en fait de la musique classique, c'est ça?
Non.
Ouais, donc, et là en fait ça va être une série acoustique, ils entendent par là qu'ils vont sortir, enfin ça sera des, donc il n'y aura pas de machine, mais ça sera aussi dans le registre d'une musique entre guillemets. Après je sais pas si le terme musique classique convient, parce que tu fais quand même une...
Alors là c'est quand même à tendance classique. Je pense que leur série sera ouverte, c'est-à-dire que voilà, dominance classique, mais c'est pas arrêté là-dessus. Mmh. Et que c'est ouvert parce que c'est nouveau pour eux aussi. Donc je pense qu'ils vont étudier la chose et que c'est possible qu'il y ait différentes musiques.
Ouais, mais le fait est que ça sera acoustique.
Là, acoustique, c'est, ouais. Voilà, c'est ça.
Donc, alors, ton album, mais on est là. Donc, toi, tu inaugures donc, cette nouvelle voie pour ce label. Avec l'album Churching. Alors peut-être te présenter Tatiana Alamartine.
Oui.
Pianiste.
Oui.
Je crois, je sais pas, non, on peut dire, enfin, par exemple, on peut commencer par dire que tu es vraiment une grande musicienne, enfin, aussi une grande musicienne, si on peut le dire, parce que donc tu tu t'es formé au conservatoire, peut-être parler de ta formation déjà, parce que tu as quand même...
Alors, oui, j'ai fait le conservatoire de musique. J'ai débuté en classique, justement. J'ai fait pas mal d'années, j'ai été diplômée en classique. À savoir qu'au conservatoire, il y a toujours beaucoup de classes annexes. Enfin, c'est très complet, il y a beaucoup de... C'est comme à l'école avec les matières, là c'est pareil. Il y a plein de formations différentes autour de l'instrument, en plus de l'instrument. Et ensuite, j'ai suivi une formation au jazz, au conservatoire aussi. J'étais diplômée en jazz. Et voilà, donc j'ai aussi suivi des classes de composition. C'est vrai que... Assez tôt, j'ai aimé l'alliance des deux aussi. Je trouve que le classique nourrit le jazz et le jazz nourrit le classique. Et même si ce sont des univers un peu différents, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Voilà. Donc, oui.
Et le lien que tu ferais pour... moi, j'ai dit au début de l'émission que j'avais une toute petite culture en musique classique, mais je pense qu'il y a aussi des auditeurs qui écouteraient de Canut qui n'en ont pas. Alors toi, qui connais bien, là, qui a été formé à la musique classique, formé au jazz, le lien en fait que tu verrais, que tu ferais pour des gens en fait, avec des mots simples, toi, pour dire les ponts en fait, qu'on peut imaginer, mais entre le jazz et la musique classique.
Alors,
parce qu'en fait, le jazz, on a l'impression que c'est improvisé, alors que la musique classique, on a tendance à dire, on s'imagine que c'est des partitions, des trucs très écrits, très complexes.
C'est ça, le classique. Oui, pardon.
Donc, vas-y. Et donc...
Le classique, c'est tout est écrit en fait. Il y a c'est très précis dans le détail, parce qu'il y a plein d'annotations sur les partitions. Donc là, ça va être vraiment un travail donc, de lecture et ensuite d'interprétation suivant quel compositeur a écrit. On va interpréter différemment du Bach que du Chopin, que du Ligeti, que du Satie, que du Rachmaninoff. Et ça va être le travail de l'interprète de trouver la bonne manière de faire sonner le morceau par rapport à ce qu'a écrit le compositeur à l'origine. En jazz, c'est beaucoup moins écrit. Il existe des partitions un peu écrites, mais c'est plus un système de un thème de base avec une harmonie, et ensuite on va faire déjà le thème de base. On va déjà y apporter quelque part une interprétation aussi, mais un certain phrasé. Et après, autour de ce thème, on va improviser. Et l'improvisation peut durer le temps que le musicien veut. Et c'est vrai, un lien que je pourrais faire entre les deux aussi, c'est que autant classique qu'en jazz, on peut jouer seul, on peut jouer à plusieurs aussi. Donc on retrouve ça sur les deux plans. En classique, on peut faire de la musique de chambre, enfin ça s'appelle musique de chambre en classique. En jazz, on va être en groupe en fait. Et puis on va trouver du solo jusqu'à l'orchestre, autant des deux côtés.
D'accord. Si, c'est... Et comment dire et en fait, oui, non, parce qu'en fait, oui, je t'écoutais, mais j'avais ma question. Oui, et en fait, toi, ta formation classique, quand tu improvises en jazz, tu te sers, comment dire, ta culture, ta connaissance théorique, entre guillemets, pour improviser, ou alors c'est vraiment plus au feeling, entre guillemets quand tu joues du jazz, hein, je parle. Ou alors, tu connais tellement bien la musique que tu sais que... Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
En fait, le côté... déchiffrage, apprendre à lire une partition du classique m'aide beaucoup pour en jazz, pour aller vite pour déchiffrer les partitions. Après, pour improviser, l'improvisation se travaille. Ça paraît des fois que juste les musiciens ils se lâchent sur l'instrument, mais en fait c'est travaillé ça se travaille en écoutant de la musique jazz pour entendre quel est le langage jazz, et ensuite en travaillant directement sur l'instrument certaines gammes, certaines manières de jouer cette musique en fait, et c'est de là qu'après il peut sortir des choses dans l'improvisation. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est ça paraît improvisé, mais c'est très travaillé derrière. Normalement.
Et toi, en jazz, en fait, c'est plus à l'oreille ou tu t'appuies sur tes connaissances?
Les deux.
Les deux, ouais.
Autant les deux, ouais. Et c'est de jongler entre les deux.
D'accord.
Oui.
Et en fait, comment t'es venu t'as été formé au conservatoire et en musique classique et en jazz. Et après, comment t'es arrivé à faire tes propres compositions, ce qui a amené, et on arrive à ce qui nous amène aujourd'hui au disque, donc Churching. Voilà, donc un disque de piano solo, dont on va écouter très vite un premier morceau. Et donc, ouais, comment t'arrives? Parce qu'en fait, il y a des gens, qui sont un peu impressionnés, et en fait, qui ont du mal à se mettre à composer, en fait, qui restent strictement des interprètes. Au service de compositeurs illustres du passé, voilà, qui ont toute la considération, mais en fait, ouais, qui n'osent pas passer eux-mêmes, donc il y a des interprètes qui restent des artistes, des musiciens ou des musiciennes, des musiciennes ou des musiciens qui n'osent pas se permettre de, je prends l'exemple, ayant étudié Bach, y a Bach, je peux pas faire mon truc, quoi. Donc voilà.
Oui.
Alors, je sais pas si c'est clair non plus.
Oui, alors moi je me pose pas cette question-là par rapport à qui a écrit avant, parce qu'il existe tellement de choses. Mais comment je suis venue à composer, j'avais une professeure de piano qui s'appelait Valérie Gonzalez, qui nous incitait beaucoup à écrire des petits morceaux. Je devais avoir, 14 ans. Elle nous incitait dans la classe à écrire des morceaux. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et ensuite j'ai eu une masterclass avec un monsieur qui s'appelle Francis Vidil, qui nous avait mis sur l'improvisation libre. C'était pas spécifiquement jazz. Et ça m'avait beaucoup plu. Et donc j'ai commencé à lier un peu les deux. Et la composition, c'est quand même un truc qui ça fait longtemps que c'est là et qui est assez naturel. Enfin, c'est pas un... je sais pas comment dire. C'est quelque chose d'assez naturel, ouais.
C'est pas intellectualisé forcément.
Voilà.
Ça. Ouais.
C'est assez instinctif. C'est des mélodies qui viennent dans la tête, par exemple. Donc je les retranscris au piano. Ou alors c'est quand c'est de l'improvisation directement au piano, des choses qui sortent. Et c'est pas intellectualisé. C'est intéressant le concept de la création, du morceau. Je pense que chacun fait un peu à sa manière. Il y en a qui vont beaucoup, beaucoup le penser avant de le mettre sur le papier. Moi, c'est assez direct.
Moi, je te propose pour illustrer tout ça, d'écouter le. Donc, je crois que c'est le morceau qui ouvre l'album en plus.
Oui, Magny.
Oui. Et donc on écoute. Donc alors je rappelle qu'on va écouter ces musiques, etc. Comme tous les dimanches de 11 à 12, je recadre avec Tatiana Alamartine. Donc c'est l'album Churching. Et on écoute le premier morceau qui s'appelle
Mindy.
Voilà. c'était le Tatiana Alamartine, donc avec le morceau qui ouvre donc son album qui s'appelle Churching, je le rappelle. Le morceau s'appelle
Mindy.
Ça veut dire quoi en anglais? En français, je veux dire.
Mind, c'est l'esprit.
D'accord. Et donc le label, peut-être rappeler le nom du label?
Voxov Record.
Oui, et donc là c'est la, donc on l'a déjà dit mais on répète rapidement, donc c'est une nouvelle voix sur ce label, enfin une nouvelle, donc il lance une série de, on lance une nouvelle de, série de morceaux, de disques en acoustique on va dire, voilà. Je voulais peut-être revenir un moment sur la composition. Donc tu nous as dit, enfin plus précisément, parce que donc c'est pas intellectualisé, mais peut-être approfondir le truc, quoi.
Oui.
Comment t'as travaillé en fait, on peut prendre la chose globalement pour composer cet album, quoi.
Alors cet album, c'était il y a quelques années, je suis partie en quelques temps en Italie, vivre en Italie à Bologne. Et j'étais au conservatoire de musique de Bologne, qui est un joli conservatoire avec un très beau bâtiment et un chouette endroit. Et j'ai commencé à concevoir l'album là-bas. Donc quelques musiques que j'envoyais au label en fait, parce que bien sûr avant qu'ils sortent l'album il fallait les convaincre, donc ils me demandaient des sons.
Et peut-être la connexion avec le label s'est fait comment justement? C'est eux qui t'ont contacté, c'est toi qui les as démarchés?
Alors en fait celui qui dirige le label, qui est à la tête du label, je le connaissais des années lycée. Je le connaissais, puis on s'est perdu de vue pendant des années, et un jour on s'est revu et il m'a dit qu'il avait monté un label, et moi étant dans la musique j'ai dit mais est-ce que tu me produirais, et il a dit bah à ce moment là en fait le label, ils étaient deux à gérer le label, et il m'a dit il faut que tu nous convainques, donc envoie des musiques, on va voir si ça nous plaît, avec plaisir. Donc j'ai envoyé des premiers échantillons.
Et donc là, en fait, les premiers échantillons, je reviens à ce que tu disais, tu étais donc dans...
À Bologne, ouais. Voilà.
Donc vas-y.
J'envoyais la musique, donc les salles là-bas résonnaient énormément, donc j'arrivais pas à faire des prises de son correctes. Donc c'était difficile parce qu'ils recevaient la musique, ils disaient ça a l'air bien, mais c'est vrai que le son est pas très bon, donc on coinçait un peu là-dessus. Et puis, mais bon, c'était quand même des retours très positifs. Donc voilà, c'est parti là-dessus. Et puis il y a eu un laps de temps où j'ai pas composé de nouvelle musique, donc le projet n'a pas avancé, jusque l'année dernière où j'ai renvoyé des choses, et donc on a lancé l'idée de la fabrication de l'album. Sachant que maintenant Mourad est le seul dirigeant du label. Voilà.
Et oui, et je crois en fait que tu... enfin, j'ai lu ça dans la présentation du disque, en fait. T'as fini le disque à Lyon, donc, en 2 mois, quoi. Enfin...
Oui.
Et on peut dire, enfin, t'as composé combien sur le disque? Il y a combien de pistes?
Alors, il y a 18 pistes.
Oui, et en fait, t'as composé... Qu'est-ce que t'as composé en Italie et qu'est-ce que t'as composé à Lyon?
Alors, en Italie, j'en avais composé 4.
Ah oui, donc oui. Tu as fait l'essentiel.
Oui, l'année dernière. C'est-à-dire qu'aussi dans l'album, il y en a une seule qui date de avant l'Italie, que j'avais écrite déjà, qui s'appelle Song, qu'on va écouter après, qui est en bonus sur l'album.
Ouais, il faut acheter le CD par contre là, parce que.
Oui, elle n'est pas en écoute sur le site. Ouais. Celle-ci, on ne peut pas l'entendre, c'est un bonus. Il y a 2 bonus sur le CD. Quand vous achetez le CD, c'est pour vous inciter à l'acheter.
Ou alors, il faut écouter musique, etc. Et voilà. Puis, on l'en exclure.
Oui, surtout qu'il y a une musique, je crois, qui va passer sur le... Mindy, qui va passer aussi sur la radio.
Oui, que je mettrai sur les bandes continues.
Bandes continues.
Ça fera du bien entre un morceau hardcore et
du reggae.
Ou du rap, voilà, un petit morceau de piano.
Voilà, il faudra écouter.
Non, mais il y a quelques morceaux de musique classique aussi, quand même, sur lequel il ne faut pas être injuste. Mais c'est pas l'essentiel, quand même, des bandes continues. Enfin, bref, on revient.
On revient à la composition. Donc c'est vrai que c'est la plus, enfin le reste des pistes s'est fait l'année dernière. Donc j'ai joué dans un endroit qui a, je vais y arriver, un magasin de piano qui est dans qui est à Lyon. Et j'ai joué là-bas donc sur un super piano, un Bösendorfer qui est un très très bon piano. Enfin, la marque est une très bonne marque de piano et le piano que j'avais me plaisait bien. Et donc j'ai joué là-bas, c'est là où on a enregistré. En fait, il s'est trouvé que je devais à nouveau envoyer des échantillons au label et je voulais, comme c'est de la musique pas mal improvisée, je me suis dit je vais faire des pistes comme si elles iraient pour le CD. C'est-à-dire je vais pas juste envoyer un petit bout, peut-être il me disait ok, je vais encore re-enregistrer derrière. Je vais vraiment faire enregistrer comme si c'était allez, on fait le CD. Et après, ils diront oui ou non, on verra. Donc j'ai vraiment enregistré dans cet état d'esprit. Et là-dessus, ça a marché, donc j'ai eu de la chance, ils ont dit oui, donc j'avais déjà le CD dans les mains, entre guillemets. Voilà, donc là, ça a été deux sessions, et c'est là où la suite de la composition s'est faite, et oui, ça s'est fait assez rapidement, en 2-3 semaines, quoi, j'ai sorti les morceaux. Et il y a même des morceaux, j'avoue, que j'ai créé le jour de l'enregistrement sur le piano.
L'enregistrement, on en parlera ensuite. Et donc oui, en fait, oui, non, parce qu'en fait, je me perds à chaque fois. Oui, non, c'est intéressant que tu dises qu'en fait, tu as pensé le disque en entier, parce que justement, là, pour les besoins de l'émission, je le dis à chaque fois, mais là, c'est vraiment particulier, je trouve, pour ce disque-là. On est obligé de fragmenter pour avoir une cohérence dans l'émission, comme on s'était dit par message interposé. Mais bon, c'est vrai que c'est très homogène. Avec beaucoup de nuances et tout, c'est un disque à écouter de A à Z, quoi. C'est pas fait pour
oui,
après c'est toujours un peu un crève-cœur dans le,
de couper,
ouais,
oui, c'est vrai qu'il est, il a été pensé quand même dans son ensemble. Il y a des petites pistes, enfin il y a des interludes qui sont à chaque, tous les deux morceaux, il y a un interlude à peu près sur toute la longueur du CD qui s'appelle avec des lettres A, B, C. Plus les pistes un peu plus longues. Et c'est vrai qu'il y a, ouais, comme tu dis, j'essaie de faire une homogénéité sur tout le CD, par la musique aussi, enfin, qu'est-ce que ça raconte. Et puis, à part le bonus son qui est quand même un peu différent en esthétique, tout le reste des morceaux est vraiment dans la même lignée. Donc c'est super si ça s'entend.
Tatiana Lamartine, donc là c'était le morceau, un morceau assez court, qui s'appelle Looking Forward, et on enchaîne, je te propose, avec un morceau qui s'appelle
All at Night.
Mmh. là en fait c'était pas All at Night. Je vois ma première invitée classique.
Non, c'est pas
j'aurais
choix.
J'aurais plus jamais de, de musique classique dans musique, etc. Donc non, donc là c'est en fait c'est un interlude dont tu parlais qui fait un peu le lien entre entre l'homogénéité des pour amener à l'homogénéité du disque dont on a parlé précédemment. Et donc là on va écouter le morceau dont on parlait qui s'appelle All at Night. C'est toujours Tatiana à la Martine sur Radio Canu dans musique etc. avec son album Churching. C'était on a réussi à le mettre All at Night. Oui, donc avant d'écouter oui, t'arrivais petit à petit au travail en studio en fait, en disant qu'il y avait même des morceaux qui t'arrivaient que t'avais composé au moment du studio. Mais comment en fait tu as travaillé toi pour enregistrer cet album, quoi, une fois que ça a été composé, quand t'arrivais en studio
Alors là, c'était un studio un peu particulier parce que c'était pas un truc, c'était un magasin de piano. Donc avec le piano à queue, le Bösendorfer. Et
ah oui, alors il faut peut-être faire une... Ouais, bon, c'est un... Donc tu disais que c'est pas un... Les articles qui en parlent disent que c'est un instrument qui est quasi magique, quoi. Enfin, qui est un très 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 bon piano.
Oui.
Et donc il y a un article qui est assez dithyrambique qui dit tous les artistes arrivent à bien sonner avec ce piano, mais seuls les très 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 bons arrivent à super bien sonner. C'est marqué.
Donc, oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un joli article.
Ouais.
Oui.
Mais je t'écoute, vas-y.
Non, oui. C'est vrai que ouais, c'était un joli piano. Et j'ai fait appel à un ingé son qui est venu gérer la prise de son. Et il faut dire aussi qu'on avait des très très bons micros d'enregistrement. Vraiment de la grande qualité, ce qui a fait que voilà, ça a donné un bon résultat. Et donc les pianos, les micros dans le piano, on va y arriver, et l'ingé son gérait tout ça pendant que moi je gérais la création, il fallait surtout les jouer. Et en fait il se trouve que c'est du live dans le sens que les prises n'ont pas été coupées, c'est en une prise à chaque fois. Donc par exemple le premier morceau je l'ai joué 3-4 fois peut-être, et j'en ai choisi une des pistes à la fin. Donc il n'y a aucune prise où on a dit tiens la minute 1 minute 20 à la minute 1 minute 20, 24, le moment est pas bon, on le coupe, on met autre chose, on le rabiboche. On n'a pas fait ça.
Et ça, et parce qu'en fait, ouais, excuse-moi d'être un peu. Mais en fait, ça, en musique classique, ça se fait, ça, le fait de couper.
Oui,
parce que dans le rock, c'est, dans l'électro, c'est hyper courant, mais dans la musique classique.
Oui.
Il y a des gens, genre, enfin, pas, n'importe quoi, enfin, qui jouent deux mesures, la troisième est pas bonne. Ils font du copier-coller comme dans les autres musiques.
Oui,
ça existe.
Oui, ça existe.
D'accord.
Oui. Partout.
D'accord.
Oui.
D'accord. Bon.
Oui, ça existe.
Mais ça peut être.
C'est comme le dopage en vélo. Non, ça existe. en fait, on peut tout faire avec la technologie. Donc, si quelqu'un n'est pas content de tel, tel bout, alors en classique, c'est très ambitieux parce que il faut respecter la partition à la seconde. Si vous prenez peut-être en musique rock ou jazz, sur un moment d'improvisation, on peut enlever quelques secondes, ou c'est pas embêtant. En classique, il faut que la partition soit restituée en entière. Mais voilà, nous on a fait des prises one shot. Voilà, que ça. Donc c'était assez éprouvant parce que pendant que je jouais, il fallait que ça marche en fait, il fallait que ça fonctionne du début à la fin du morceau. Donc, ça demandait quand même pas mal de concentration et on les répétait tant que je savais qu'il n'y en avait pas une qui irait. C'est-à-dire que si j'en fais une et qu'il y a une erreur à un moment donné, je reprends et jusqu'à ce que je sache qu'il y en a une qui pourra fonctionner. Et parfois, il y en a peut-être deux, trois voilà, qui pourraient être prises et il faut encore choisir laquelle on prend. Parce qu'il y en a une qui sera peut-être plus intense à un moment donné, l'autre plus jolie, qui aura plus de couleurs à tel endroit, l'autre où le discours de la mélodie est plus intéressant. Voilà, il faut regarder tout ça. Donc ça c'est encore un travail après, en fait, après l'enregistrement. Voilà. Est-ce que c'est assez clair?
Oui. Oui, non, c'est clair, c'est okay. Très clair. Et en fait, ouais, donc... Après, c'est comme une c'est limite une deuxième phase de composition pour amener au
c'est
disque.
Ça. Oui, c'est ça. C'est encore un moment où...
Parce qu'après, en fait, il y a un propos artistique qui est choisi au moment de la composition, après de l'enregistrement, puis après du choix des versions enregistrées. Quoi.
C'est donc, ça. C'est ça. Et en plus, après, il y a le mastering, qui est le fait de mettre toutes les pistes sur format CD. Et donc, là, il faut faire attention à garder la meilleure qualité possible du son. Et toute cette partie-là est avec... donc là, c'est Vincent Villuis qui a travaillé là-dessus. Je n'ai pas dit son nom jusque-là. C'est important parce que c'est lui qui a travaillé. C'est quelqu'un qui travaille chez Ultimae à Lyon. Et lui a regardé pour que garder la qualité du son sur chaque piste, mais pouvoir la mettre au format CD, ce qui est un travail assez important et ça demandait beaucoup de travail. Donc c'est encore une autre phase. Il y a beaucoup de phases dans l'élaboration d'un CD. Et il y a la pochette aussi qui est
qui est superbe. Tu peux en parler, voilà.
Ouais, c'est Max Paskin. Qui a fait la pochette. Enfin, on a regardé ensemble pour les choix de couleurs et de... Alors, à la radio, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de photo, mais
je la montre aux auditeurs, regardez tous.
La photo, c'est des carrés de couleurs, en fait. Ouais. C'est une espèce de mosaïque de carrés de couleurs. Je voulais de la couleur sur le CD. Après, c'est donc le designer attitré du label qui me proposait des archives d'images, en fait. Il travaille avec des archives d'images. Il m'a proposé plusieurs choses et c'est vrai qu'on a mis un petit temps à se mettre d'accord. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on essayait aussi de trouver, bien sûr, une image qui va avec les pistes et ce que ça raconte. Donc, voilà, ça a pris un peu de temps et puis on s'est mis d'accord là-dessus et c'est vrai que la pochette, on est assez contents.
Et oui, j'ai vu aussi, alors je sais pas si je crois que c'est dans l'article que j'évoquais tout à l'heure que c'était un album hivernal. Alors, mais en même temps qu'il y avait des couleurs, ouais, enfin justement je rebondissais là-dessus, puis une sorte de journal musical aussi. J'ai lu ça sur je sais pas si parce que je pense, enfin, par exemple, je prends vraiment l'exemple extrême, on va dire un disque de rap, on peut imaginer que c'est un journal.
Journal dans quel sens
que...
Que ça raconte.
Ou que ça raconte, qu'il y a une histoire musicale, mais du coup, en fait, tu pourrais le. Mettre des mots dessus, justement, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de. On arrive à l'achoquement, peut-être, ou à la difficulté, justement, de parler Et ce qui montre que j'ai pas du tout l'habitude de recevoir des gens qui font de la musique classique. Parce qu'en fait, oui, enfin, je veux dire.
Il n'y a pas de parole.
Oui, donc il n'y a pas de parole, mais je veux dire, non, j'ai lu donc, dans l'article, c'était, il présentait le disque en fait comme une sorte de journal musical. Oui. Est-ce que c'est. Enfin, est-ce que tu es d'accord? Et qu'est-ce que. Si tu es d'accord, qu'est-ce que. En traduisant en mots, qu'est-ce que ça peut signifier pour les.
Oui, alors journal musical, là j'ai pas l'article en tête, je sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là. En fait, oui, l'album raconte quelque chose, plein de choses même, et j'aime bien quand c'est ouvert dans le sens que les gens peuvent aussi entendre, chaque personne va entendre peut-être quelque chose de différent en écoutant le CD, et ça j'aime bien. C'est comme le titre du CD qui s'appelle Searching. J'ai fait exprès de mettre quelque chose d'assez ouvert pour que chacun puisse aussi s'identifier ou pas s'identifier, mais
se projeter
ou voilà, pouvoir que ça parle. Mais il y avait un trompettiste actuel, un bon trompettiste qui a sorti un CD qui était un nom assez long, mais il disait. Il a des significations, ce nom pour moi, mais il peut en avoir pour chacun. Et voilà, c'était aussi l'idée de ce CD, c'est que c'est quelque chose d'ouvert, que chacun peut, dans chaque morceau, entendre quelque chose qui lui correspond, qui va le faire avancer, qui va le toucher. Voilà, donc c'est voilà.
Ouais, non, ce qui est intéressant.
Après, journal
musical. Non, oui, journal musical, ouais, ça te parle. C'est pas toi qui l'as écrit.
C'est pas moi qui l'ai écrit. Après, ouais, on peut dire que c'est un journal musical. Ouais. Oui, on peut.
Enfin, l'expression n'est pas de toi, en tout cas.
Non, l'expression n'est pas de moi.
Et oui, donc, non, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des gens comme moi, en fait, qui ont très peu de culture en musique classique. Moi, j'ai beaucoup aimé le disque. Le disque est très beau, et je dis encore une fois, faut l'écouter entièrement, vraiment se plonger dedans.
Merci.
Et puis donc, il y a les articles, enfin notamment l'article que j'ai lu où là, c'est vraiment un spécialiste de la musique classique, donc qui voit vraiment, qui a écouté, qui connaît très bien l'univers de la musique classique, et lui, il voit plein de voilà. Donc c'est un disque qui est aussi bien fait pour les spécialistes que pour les gens qui connaissent mal la musique classique. Quoi.
Ouais.
Peu de culture dans ce domaine-là.
Ouais, ça me plaît bien aussi, parce que c'est vrai que chacun va l'entendre par rapport aussi à ses références. Et hier, j'ai fait écouter le CD à quelqu'un qui m'a dit « Tiens, cette piste, ça me fait penser à la fois à Satie et Ravel, qui sont des compositeurs classiques. »
Je connais des gens.
J'ai dit pour les auditeurs de Radio Canu. S'il y en a qui ne savent pas, c'est possible.
Des incultes qui écouteront de Canu. non, mais vas-y.
Donc,
je voulais faire une blague, mais c'est pas drôle.
D'accord. Vas-y, alors, on le dit. Satie et Ravel, donc, qui sont des compositeurs classiques. Et d'ailleurs que j'ai joué, que j'aime bien comme compositeur. Et il m'a dit tiens, on entend un peu ça. Et puis à un autre moment, quelqu'un d'autre va me dire tiens, ça me fait penser plus à tel musicien. Parfois on sort un musicien du jazz. Des fois des gens vont me dire tiens, ils vont me dire ça sonne aquatique, ça sonne relaxant. Les gens, ça les percute sur certaines choses. Et puis que ça soit des fins connaisseurs ou des gens qui n'écoutent pas énormément ce genre de musique, c'est pas le plus important. Ce qui est important, voilà, c'est si ça peut toucher directement quelqu'un, voilà.
Thank you.
Voilà, Tatiana Lamartine, donc c'est le morceau, on vient d'écouter le titre Song, c'est toujours extrait donc de son album Churching. Alors là par contre, une particularité, donc c'est un morceau qu'on trouve que sur le CD, ça.
Oui.
Il faut acheter le CD pour l'avoir.
C'est ça. Sur le CD, il y a deux pistes bonus à la fin du CD. Et on ne trouve que si on l'achète, on ne trouve pas sur le site web. Parce que le CD est en écoute libre sur le site web.
Bah, tu peux peut-être. On le redira à la fin, mais oui, pour ceux qui veulent écouter le site web, c'est quoi?
Alors, c'est Vox of Records, c'est sur le site web du label.
D'accord.
Et là, on trouve directement le CD.
De toute façon, il y aura un podcast que je pense que. Sur le blog de Radio Canu et musique, etc., je mettrai tous les liens. Et puis, on fera, comme je t'ai dit en antenne, bien ta pub comme il faut à la fin pour ceux qui ont aimé qui aiment ta musique et ce disque. Oui, une question que j'ai oubliée, oui, pour l'enregistrement. Non, sur ce morceau-là, donc le monsieur qui s'y connaît très bien, qui a fait un article sur ton disque, disait que c'était ton morceau, entre guillemets, le plus pop.
Oui, ça c'est un peu une autre esthétique. J'ai pas mal de morceaux de ce style, mais j'en ai mis juste un sur ce CD parce qu'il me tenait à cœur aussi. Oui, c'est plus pop, c'est plus. Comment dire, c'est des mélodies et juste quatre accords dessous comme vous pouvez entendre dans toutes les musiques pop du monde. C'est très simple. Mais bon, c'est de la musique que j'aime bien aussi.
T'écoutes de la musique pop?
Oui, j'écoute de la musique pop. J'écoute toutes sortes de. Pas toutes, mais beaucoup, beaucoup de musiques différentes. Et la pop aussi. Je trouve qu'il y a des choses très belles en pop.
Qu'est-ce que t'aimes bien en pop?
Oula, alors là tout de suite comme ça, qu'est-ce que j'aime bien en pop?
Non mais comme ça, un ou deux trucs que t'aimes bien? Bah...
Coldplay, qui est un groupe pop, j'aime bien.
D'accord,
ouais.
Par exemple. Et en fait, en tant que toi qui connais. Alors, c'est les questions que je pose, les gens se posent, hein, du coup, mais toi, justement, qui vraiment est très affûté au niveau de la musique, quand tu écoutes Coldplay, enfin, il n'y a pas une frustration en tant que musicienne à écouter, je sais pas, un truc, enfin, des trucs qui passent et tu te dis, mais enfin, je sais pas, il y a deux accords, tu peux pas écouter, quoi, parce que tu te dis, c'est trop.
Excusez-moi. Oui, alors il y a des choses, bon, et puis, déjà il y a énormément de choses qui sortent, il y a des choses pour moi c'est pas de la musique, c'est du bruit ou c'est juste une blague. bon, chacun pense ce qu'il veut, mais il y a des choses vraiment qui sont pour moi qui sont pas de la musique. Après, c'est vrai que le processus, le fait que ça soit simple, si c'est fort, enfin si c'est musical ou très chantant ou ça peut être juste une voix qui chante quelque chose, ça peut être magnifique. Pour moi c'est parfait que ça soit simple. Après oui, de travailler les choses et après de voir que des gens font des choses un peu en fait, c'est le fait que ça soit simple et le fait que ça soit à la va-vite ou qu'il n'y ait pas de contenu. Et ça c'est embêtant parce que c'est pas intéressant.
Oui, on vient en fait de ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait l'idée, c'est équivalent avec ton disque, c'est l'idée en fait que ça évoque quelque chose aux gens et que toi en fait, bon, à la limite, au-delà de l'aspect technique, il faut que ça t'évoque quelque chose, c'est ce que tu veux dire?
Que toujours il reste un côté simple de la musique, ça pour moi c'est vraiment primordial. Après, c'est plus que c'est des mondes différents, parce que si vous travaillez certaines choses, en classique, par exemple, je sais pas, il m'est arrivé de travailler du Messiaen, par exemple. Je sais pas
non,
si
je connais pas Messiaen. Peut-être dire.
C'est très contemporain, en fait.
D'accord.
Et c'est des partitions qui. C'est vraiment. C'est beaucoup de travail de faire ça. Mais voilà, on recherche des choses. Et après, c'est sûr que vous entendez des choses où il n'y a pas de recherche derrière, ou c'est juste. Après, c'est des mondes différents, je pense. C'est même pas est-ce que j'aime cette musique ou pas, c'est juste que, Voilà, j'ai un peu du mal à...
Ouais, on n'est pas sur le même plan, quoi. Enfin,
oui, après, ouais. C'est... Et vous savez, après, vous savez reconnaître quelqu'un qui recherche sa musique, qui la travaille, et quelqu'un qui fait ça à la va-vite. Comme toutes les vedettes un peu actuelles où il y a des choses... voilà.
Tatiana Lamartine sur Radio Canut dans musique, etc. Donc toujours, ça c'est le morceau qui s'intitule...
Searching, il me semble.
Non.
Non.
C'est pas Searching, c'est Space...
Space Work.
Ouais, c'est ça. Voilà. Searching, on l'écoute juste après.
Ok, j'ai mélangé.
C'est pas un souci. Et donc, oui, non, peut-être parler aussi donc de la scène, parce que donc il y a... En fait, oui, t'as joué partout. Non, mais ça, je plaisante un peu, mais en fait, ouais, t'as joué, je crois que t'as joué en Chine, un peu partout en Europe, t'as sillonné un peu la France, même beaucoup la France.
Ouais, la France pas mal, l'Europe et la Chine, ouais, c'est principalement, la Chine, j'ai joué à Shanghai en fait l'année dernière. Et j'y retourne cette année pour faire une tournée une semaine. J'aurai 5 dates là-bas en février. Pour ce qui est de l'Europe, j'ai fait quoi ? J'ai fait la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Norvège, la Suisse. Puis bon, j'en oublie peut-être l'Angleterre. Où j'ai fait pas mal de pays. À chaque fois, c'était des situations différentes. Par exemple, la Pologne, République tchèque et Allemagne, j'ai fait dans le cadre d'une tournée. Et c'était il y a assez longtemps. On est parti en minibus. On était toute une équipe. On faisait un orchestre, en fait. Et on a joué dans plein de lieux, mais en extérieur. Ça, c'était vraiment super. On a joué devant la statue de Bach à Leipzig. On a joué à Berlin, on a joué à Cracovie, à Prague, enfin plein d'endroits. Après, voilà, des fois c'est sur comme ça en tournée en extérieur. J'ai fait des festivals aussi. J'ai joué plusieurs fois à un festival pas très loin d'ici qui s'appelle Jazz Alien. Mmh. Entre la formation solo à l'orchestre, parce que j'ai fait solo, duo, quartet et en big band aussi. J'ai joué au festival Mosaïque Le Havre, donc au Havre, en première partie de Yoon Sun-na, qui est une chanteuse, je crois, coréenne, sud-coréenne, une chanteuse de jazz, quelqu'un qui m'inspire beaucoup en musique, en fait.
Oui, elle est citée dans les gens que tu as rencontrés qui t'ont marqué, en fait,
Oui, parce que y a déjà ce concert où j'ai eu la chance de parler avec elle.
T'as travaillé avec elle, je crois, même, non ?
Et j'ai fait une masterclass où, alors, j'étais pas intervenante sur scène, mais elle parlait au public, parce que c'était à Marciac, où il y a un gros festival de jazz chaque année, en août, il me semble. Et donc là, elle faisait une masterclass, et j'étais allée, j'avais trouvé ça passionnant. Et voilà, je la trouve très inspirante et voilà, donc je la cite souvent. Voilà pour les concerts, donc il y a les festivals et puis après il y a les scènes plus petites, les restaurants, les bars, voilà, c'est intéressant de jouer dans des lieux différents, dans les appartements aussi, appartements concerts privés, c'est intéressant. Voilà.
Et selon le cas où tu joues seul, en duo, en quartet ou en big band, le rapport à la scène, est-ce que ça change déjà, toi, ton approche la scène est différente?
Oui, c'est très différent. Par exemple, quand on se retrouve en orchestre sur scène, en orchestre, dans le cadre du big band, il y a peut-être 20 musiciens sur scène. C'est tout de suite plus facile, entre guillemets, parce qu'on est un peu plus dans un cocon, je trouve. En fait, il y a tellement de monde sur scène que c'est plus facile, alors que quand on est tout seul, c'est plus dur. Quand on est quatre, il faut arriver à deux ou quatre, je dirais deux, trois, quatre. Il faut arriver à bien s'accorder pour pouvoir faire un bon concert. Donc c'est une difficulté différente, mais ça reste quand même assez, la scène c'est particulier, c'est à chaque fois différent. Des fois c'est très facile, des fois c'est dur, on peut avoir le trac. Des fois il y a beaucoup de public. Moi, je trouve que c'est indépendant du nombre de personnes. Moi, plus il y a de monde, mieux j'aime.
Ah oui.
Ouais. C'est pas quelque chose qui influe sur.
Ça paraît paradoxal parce que on peut s'imaginer que ça pourrait plus t'impressionner, non ?
Ouais, non, je trouve que ça met à l'aise aussi. Ouais. Plus il y a de monde, moi ça me fait ça. Et en fait, ce qui est difficile, c'est vraiment les petites salles où les gens sont juste à côté. Mmh. Et suivant ce que vous jouez aussi, bien sûr. Parce que si je joue une composition, par exemple des compositions, c'est là souvent où je suis le plus à l'aise parce que c'est moi qui ai créé la chose. Alors que si je fais un morceau de Bach ou même un morceau de jazz, c'est plus difficile. Et si les gens sont juste à côté, c'est encore plus dur parce que c'est un côté assez intime qui vous êtes un peu tout mou, comme on dirait. C'est très intéressant la scène et voilà, c'est tout le temps différent. Mmh. Je pourrais pas dire quel est le facteur qui fait que un jour, c'est plein de choses différentes qui font que ça marche ou ça marche pas un jour et l'inverse le lendemain, mais il n'y a pas une règle, je trouve.
Mais que ça marche ou ça marche pas, en fait, au niveau de ton ressenti à toi, au niveau de ce que te renvoie le public, en fait.
Ah oui, ça c'est intéressant parce que c'est souvent.
Parce qu'en fait, ouais, des fois, à la limite, je pense que j'imagine qu'éventuellement, toi, t'es pas contente de ta prestation, le public a adoré.
Oui.
Et puis peut-être. T'es un peu méchant. Inversement, quoi. J'ai fait un truc génial.
On a l'impression d'avoir été bon sur quelque chose et puis en fait exactement, ça c'est rigolo d'ailleurs parce que c'est jamais comme on croit et ça change. Et notamment j'ai joué en solo à Vienne cette année en juin et j'étais vraiment pas contente. Et c'était complètement disproportionné à mon ressenti interne, en fait, et ce que m'ont dit les gens autour. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est toujours comme ça en fait, c'est toujours très différent ce que renvoie le public de ce que soi on a senti.
Là, on vient d'écouter Churching. C'est le morceau qui donne son titre à l'album. Le morceau éponyme, comme on dit. Et puis, donc, je te propose qu'on enchaîne avec un morceau un peu plus long qui s'appelle Such a
Nigga.
Voilà. Merci de m'aider pour l'accent. Donc, c'est toujours Tatiana Lamartine, c'est toujours avec son album Churching.